Bonjour à chacun et chacune, surtout à ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Bienvenue à toi Annelise, c'est vraiment un plaisir de te voir parmi nous ce matin. Alors ce matin, je vous invite à nous arrêter sur l'appel de l'évangéliste Matthieu. Comment est-ce que Jésus a appelé Matthieu pour lui proposer de le suivre et de devenir son disciple ? Nous sommes aujourd'hui à la veille du club d'été et c'est intéressant de se rappeler comment est-ce que Jésus a appelé ses disciples. Car pour que le club d'été fonctionne, il y a beaucoup de bénévoles. Il y en a combien, Emmanuel ou Rebecca ? Une soixantaine de bénévoles. Et ils ont tous été appelés. Vous avez tous été appelés pour cet engagement. Alors je vais refaire ce que Pierrick a fait tout à l'heure, mais avec un petit détail. Qui c'est qui est impliqué de près ou de loin dans le club d'été? J'aimerais vous demander de lever la main. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde, mais j'aimerais dire que tous ceux qui n'ont pas levé la main, ils sont aussi impliqués parce qu'on a besoin de prière. On a besoin aussi que l'Esprit de Dieu se manifeste. Il est au milieu de nous. Mais il faut encore qu'il se manifeste, qu'il agisse en puissance. Parce que le fait que quelqu'un se tourne vers Dieu, c'est un vrai miracle. Alors c'est intéressant de voir que les principes que Jésus a utilisés pour appeler Matthieu sont encore valables aujourd'hui pour chacun de nous. Le récit que nous allons lire est situé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Ce sont donc les versets 9 à 17. Ce récit se trouve aussi dans les évangiles de Marc et Luc, mais j'ai préféré celui de Matthieu. En fait, il raconte un petit peu sa propre vie. On lit donc Matthieu 9, à partir du verset 9. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, c'était la maison de Matthieu, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mangeait-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes ?» Tant que le marié est avec eux, les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alors moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, ben c'est réconfortant quand même de savoir que Dieu nous appelle, nous qui sommes bien imparfaits. Comme Matthieu était imparfait, nous aussi on est imparfaits. Alors quel est le contexte de l'appel de Matthieu ? Chronologiquement, l'appel de Matthieu est situé vers la fin de l'appel des disciples. Les autres disciples ont déjà été appelés et c'est maintenant Matthieu qui est appelé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une similitude entre les différents appels des différents disciples qui sont mentionnés dans les évangiles. Cette similitude, c'est la rapidité à obéir. À chaque fois, en tout cas à chaque fois que c'est relaté, Jésus appelle et les disciples s'interrompent dans ce qu'ils sont en train de faire et ils suivent Jésus tout de suite et sans discuter. un autre élément de ce contexte, Matthieu est rencontré au bureau des péages. Matthieu était lui-même un péager. Et ça, c'est nouveau. Jésus appelle à sa suite un collecteur d'impôts dont le rôle était de recueillir les taxes pour les Romains. Il faut se rappeler que lorsque Jésus était sur la terre, le peuple juif était sous la domination romaine. Ces percepteurs s'appelaient des publicains ou des péagers. Ils étaient méprisés du peuple à cause de leur collaboration avec l'occupant et des taxes exorbitantes qu'ils exigeaient. Ils avaient le droit de demander ce qu'ils voulaient pour se faire payer. C'est-à-dire qu'ils augmentaient donc le montant des impôts et se rémunéraient par ce supplément. En conséquence, ils étaient riches, mais riches sur le dos de leurs concitoyens. Et pour le coup, c'est pas difficile à comprendre, leurs concitoyens les haïssaient. Jésus donc appelle à sa suite un collecteur d'impôts. Jésus ne regarde donc pas au mérite. L'appel de Matthieu. La première chose qui surprend quand on voit l'appel de Matthieu, enfin la deuxième chose, puisque j'ai déjà dit tout à l'heure la première chose, c'est le fait que c'est Jésus qui appelle. C'est intéressant de voir que lorsque Jésus a vu Matthieu, Jésus n'a pas vu un percepteur d'impôts. Il a vu un homme, il a vu Matthieu, il a vu dans sa personne. Lorsque Jésus nous voit, il nous voit aussi en tant que personne. Et il voit aussi, il voit en avance, il voit aussi ce qu'il a en réserve pour nous, ce à quoi il nous destine. Et Jésus nous destine, bien sûr, à être sauvés et restaurés, mais Jésus nous destine aussi à communiquer le salut autour de nous. Telle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Après, il peut y avoir des volontés spécifiques, mais en tout cas, ces deux-là, elles sont valables pour tout le monde. Donc, pour que nous fassions la volonté de Dieu, la première chose que Matthieu a faite, nous le voyons au verset 10, cela a été d'inviter ses amis et ses collègues, donc les autres péagers, à un grand banquet pour leur faire connaître Jésus-Christ, parce qu'il a aussi invité Jésus et ses disciples. Faire connaître Jésus-Christ, voilà donc une volonté de Dieu commune pour l'ensemble de ses enfants. Mais alors, quel message à transmettre? Quel est le message que nous avons à transmettre si nous sommes appelés? Et là, je vous invite à lire trois versets dans Éphésiens 2, les versets 8 à 10. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » La grâce, on y revient. Je vous invite à relire les versets 10 à 13 de Matthieu 9. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. » Jésus nous a appelés, nous qui sommes pécheurs par nature, c'est un des aspects de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, par contre, est incompatible avec la loi. On a vu dans le texte que entre la pratique de Matthieu et les remarques des pharisiens, c'était tendu, hein, c'était en opposition. Les pharisiens cherchaient à être justifiés par le principe de la loi. Ils essayaient d'appliquer la loi à la lettre. Ils ne comprenaient pas la grâce parce qu'ils s'efforçaient d'offrir de bonnes œuvres à Dieu par leurs propres efforts. Mais la grâce, c'est tout le contraire. La grâce, c'est Dieu qui donne, et il donne sans que nous méritions quoi que ce soit. Et la tentation ou le risque, pour ceux qui étaient dans l'Ancien Testament et qui pratiquaient la loi, la tentation ou le risque pour ceux qui ont vécu pendant le temps de la loi, c'était d'en rester à la prestation matérielle, sans faire du sacrifice un acte de conversion à Dieu, parce que le sacrifice avait un but, c'était une préfiguration de ce que Christ allait accomplir, mais les pharisiens, ils vivaient dans la loi de façon stérile, c'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas cette préfiguration, ils le vivaient comme un acte à accomplir qui leur permettrait d'avoir un mérite. Le risque était de faire du sacrifice un mérite, et c'est bien ce que vivaient les pharisiens justement. Dans l'exemple de l'appel de Matthieu, nous voyons une manifestation de la grâce de Dieu. Jésus qui choisit un collecteur d'impôts comme disciple. Ces paroles du Seigneur nous montrent que les collecteurs d'impôts et les pécheurs connaissaient leur propre situation et en conséquence se rapprochaient de lui par pure grâce. C'est-à-dire que ils savaient qu'ils étaient éloignés, ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Mais les pharisiens, eux, s'auto-justifiaient et en conséquence critiquaient le Seigneur de ce qu'il manifestait sa grâce envers les collecteurs d'impôts et les pécheurs. C'est parce que les hommes, et les pharisiens entre autres, ne connaissent pas la grâce de Dieu qu'ils reprochent à Dieu de faire grâce aux hommes. C'est parce que les hommes ne connaissent pas la grâce de Dieu qu'ils reprochent à Dieu de faire grâce aux hommes. C'est cela la grâce, recevoir quelque chose que l'on ne mérite pas. Il y a eu en France, jusqu'en 1981, la pratique de la peine de mort. L'échappatoire à la peine de mort était la grâce présidentielle. C'est-à-dire que le président de la République pouvait gracier un condamné. Mais contrairement à la grâce divine, la grâce présidentielle était fondée sur différents éléments. Tout d'abord sur le bon comportement du condamné, sur la bonne volonté du président ensuite, ou bien tout bêtement sur les circonstances et les faits divers qui rendaient à ce moment-là plus ou moins facile pour le président l'accord de sa grâce au condamné. Mais la grâce divine, ce n'est pas du tout cela. Elle n'est pas liée à des circonstances. Elle est offerte par la pure bonté de Dieu qui désire que chacun parvienne à la connaissance de la vérité. Un exemple de grâce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Il y a un bel exemple de ce qu'est la grâce de Dieu. Vous vous rappelez le grand roi David. Le grand roi David avait comme pire ennemi le roi Saül, donc avant qu'il soit roi. Après la mort de Saül et de son fils Jonathan, David a cherché s'il restait un descendant de Saül et Jonathan pour lui faire du bien, alors qu'à l'époque, il était coutume de tuer tous les descendants de ses ennemis. On lit cela en 2 Samuel 9. C'est l'histoire de Méphibosheth. 2 Samuel 9, à partir du verset 3, le roi, donc David, dit « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Siba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux deux jambes. » Le roi lui demanda « Où est-il ?» Et Siba répondit au roi « Il est chez Makir, fils d'Amiel à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David. Tomba le visage contre terre et se prosterna. C'est vrai qu'on peut essayer de se mettre à sa place. Il devait être dans ses petits souliers, comme on dit. David lui dit « Méphibosheth ». Il répondit « Me voici, je suis ton serviteur ». David lui dit « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père, Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain de quoi manger. » En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Et la fin du verset 11, « Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. » Non seulement Méphibosheth est pardonné, David lui fait grâce, mais en plus, il est honoré par David. Il mangera toute sa vie à la table du roi comme s'il était prince. C'est là une belle image de ce qu'est la grâce de Dieu pour nous. Cette histoire nous rappelle que Christ a fait la même chose pour nous. Non seulement il a tout payé pour notre rachat à la croix du calvaire, mais en plus, il a fait de nous ses enfants. Nous devenons enfants de Dieu. Mais la grâce, ce n'est pas quelque chose de naturel. Naturellement, nous sommes enclins à recevoir en contrepartie de ce que nous donnons. Mais la grâce, c'est recevoir sans contrepartie et sans mérite. Cette grâce-là, il n'y a que Dieu qui puisse la donner. Et il n'y a aussi que Dieu qui peut nous permettre de la recevoir. Notre nature propre fonctionne sur le principe du mérite et de l'application de la loi. Mais la grâce, elle est essentielle. Elle est essentielle déjà dans toute la Bible. Elle est essentielle pour tout être humain. On est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres de la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Si ce n'était pas comme cela, personne ne pourrait être sauvé. Et là, on peut lire Galates 2 au verset 16. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Jésus-Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais la grâce, pour être efficace, elle doit être aussi acceptée. La grâce, pour pouvoir être une réalité, pour pouvoir s'accomplir, doit donc être acceptée, c'est-à-dire reçue par la personne à qui elle est donnée. Et là, il y a un exemple frappant, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a un exemple, c'était au début du XVIIIe siècle, aux États-Unis. Un certain George Wilson, qui avait commis un meurtre et qui a été condamné à mort. Le président d'alors, le président Jackson, l'a gracié. Mais George Wilson a refusé la grâce présidentielle. C'est pas courant, c'est pas commun. La Cour suprême, alors, a déclaré « La lettre du président ne possède un pouvoir d'acquittement que sous réserve d'acceptation par la personne condamnée. » Et il est mort. Il est mort parce qu'il a refusé la grâce présidentielle. Et cela illustre bien la conséquence de la grâce, la liberté, ainsi que l'importance de la décision humaine pour que la grâce divine soit effective. Alors, dans le passage qu'on a lu sur l'appel de Matthieu, il nous est donné l'exemple de la vieille outre et du vieux vêtement. Et la fin du passage, ces deux exemples-là, méritent qu'on s'y attarde un petit peu. On les relit, donc ce sont les versets 16 et 17. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Il y a donc là deux images qui soulignent la même vérité. À l'époque de Jésus, le vin était conservé dans des outres faites en peau de chèvre, cousues ensemble pour former des sacs étanches. Alors en fermentant, le vin se dilatait et les peaux s'étiraient. La peau des vieilles outres aurait éclaté si on y avait mis du vin nouveau. Ce dernier, donc le vin nouveau, était donc toujours conservé dans de nouvelles outres. De la même façon, Jésus n'est pas venu rafistoler l'ancien système religieux du judaïsme avec ses règles et ses traditions. Son objectif, l'objectif de Jésus, était d'apporter un message nouveau, bien qu'annoncé par les prophètes des siècles auparavant. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour offrir à tous les hommes le pardon de leurs péchés et la réconciliation avec Dieu. Et cette bonne nouvelle ne pouvait pas entrer dans le cadre rigide du système légaliste qui était en place. Il fallait un nouveau départ. Un tel message restera d'ailleurs toujours nouveau, parce qu'il doit être accepté et mis en pratique par chaque génération. Chacun doit le comprendre tout à nouveau pour lui-même. Si nous voulons suivre Christ, nous devons être prêts à connaître une nouvelle manière de vivre, porter un nouveau regard sur les gens et nous engager dans un nouveau type de service. Faire preuve de miséricorde envers quelqu'un, c'est lui épargner ce qu'il mérite. Faire preuve de grâce, c'est lui offrir ce qu'il ne mérite pas. Vous voyez la différence ? Faire preuve de miséricorde, c'est épargner à quelqu'un ce qu'il mérite, mais faire preuve de grâce, c'est offrir à cette personne ce qu'elle ne mérite pas. C'est un cran plus loin. Dieu a fait preuve de miséricorde envers nous en nous pardonnant nos péchés et en renonçant à nous en tenir pour responsables. Puis, il a franchi une étape supplémentaire en nous offrant sa grâce, en nous donnant la vie éternelle dans la personne de Jésus-Christ. Le pardon est un don merveilleux, mais ce n'est pas l'événement le plus important. Le pardon est la condition préalable à l'accomplissement de l'objectif suprême de Dieu. Quand nous sommes sauvés, le plus merveilleux est que nous recevons la vie de Jésus-Christ qui vient habiter en nous. 2 Corinthiens 5:17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est ça que nous devons partager, communiquer. Mais ensuite, il faut marcher. La grâce s'applique tous les jours de notre vie pratique. La grâce nous accompagne pendant tous les instants de notre vie. C'est l'apôtre Paul qui nous invite à rester conduits par l'Esprit que Dieu nous a donné. C'est la meilleure façon d'être protégés de notre propre nature qui tend à nous attirer vers une conduite légaliste et qui tend à nous écarter de la volonté de Dieu. Galates 5, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Nous sommes donc appelés à partager ce salut qui a pour base la grâce de Dieu. La notion de la grâce n'est pas naturelle. Il faut prier pour qu'elle soit révélée aux autres, parce que comprendre la grâce est à chaque fois un miracle, à la fois pour nous, mais pour les autres aussi. La victoire se trouve dans la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul déclare en 1 Corinthiens 15 « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si on repense à l'exemple de Matthieu, en connaissant la puissance terrible que l'argent exerce sur l'esprit humain, et en connaissant aussi quel était son métier, on peut réellement qualifier de miracle la réponse que Matthieu a donnée à l'appel qu'il a reçu. Matthieu était assis dans son bureau de recette, tout entier à la tâche agréable d'encaisser de l'argent, lorsqu'il entend ces deux mots à la bouche de Jésus. « Suis-moi ». Celui qui l'appelle prend une telle dimension à ses yeux que l'argent s'en trouve détrôné et perd son attrait pour Matthieu. C'est ça le vrai miracle. Le miracle, c'est que l'œuvre de Jésus prenne la première place. Et pour la semaine qui est devant nous, Dieu désire aussi faire des miracles auprès des enfants, auprès des parents, auprès des familles. Il désire se révéler. Alors je vous propose maintenant, en guise de conclusion, que 2, 3 ou 4 personnes prient pour remettre cette semaine. Dieu veut se manifester, mais on a besoin de le prier pour qu'il ait toute la place, que l'Esprit se manifeste, que l'Esprit ait une liberté pendant cette semaine, qu'il puisse faire ce miracle dans la vie de plusieurs, que plusieurs puissent vraiment le rencontrer, s'approcher de lui, le découvrir comme leur sauveur et vivre une nouvelle vie. Et puis je terminerai ce moment. Et je crois que c'est important de commencer cette semaine en la remettant vraiment profondément à notre Dieu. Oui, Seigneur, nous te remettons cette semaine afin que tu te manifestes, afin que tu te révèles, afin que par ton esprit, tu puisses pénétrer dans des cœurs, dans des vies. Nous te remettons toute cette organisation pratique afin que tu gardes, que tu protèges. Nous te remettons tout particulièrement les enfants qui participeront, que tu les gardes, que tu prépares à leur cœur, qu'ils aient une juste conscience de ton œuvre, de leur besoin de te rencontrer aussi. Oui, Seigneur, nous te prions aussi pour les familles, pour les parents, afin que tu les bénisses, et que tu les bénisses jusque dans la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer que tu es vainqueur. Nous voulons proclamer que tu reviens bientôt et que tu désires te révéler encore dans de nombreuses personnes. Sois béni, sois loué, Seigneur. Amen. Je partage avec vous les annonces. Alors, tout de suite après le culte, j'aurai besoin de 4 personnes pour un travail tout pratique, peut-être des personnes assez costauds, pour déplacer le baptistère, puisque en fin d'après-midi, il y aura donc une cérémonie de baptême ici, dans cette salle, par l'église du Réveil de Gex. Et donc, on a besoin que le baptistère soit plein et on a meilleur temps de le transporter vide. Donc, est-ce que 4 personnes pourraient se manifester? Comme ça, je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Ouais, merci. Merci bien. Donc, cet après-midi, à 17h, il y aura donc la mise en place de la salle Gaston Laverrière. Peut-être Emmanuel, tu voudrais faire des annonces, non? Voilà, rendez-vous là-bas à 17h. Et après la mise en place de la salle, il y aura donc une mise au point pour l'ensemble des participants. Je ne me rappelle plus quel est le jour de la réunion de prière.
C'est le mercredi.
Mercredi, à quelle heure?
À 17h30.
17h30, voilà. Donc mercredi 12 à 17h30. Et là aussi, on est tous concernés. Réunion de prière sur place, donc à la salle Gaston Laverrière. Ce sera la mi-parcours, et c'est important aussi de se retrouver. pour faire le point et pour remettre aussi les différents sujets à notre Dieu et pour intercéder aussi pour qu'il se manifeste vraiment pendant cette semaine. Donc mercredi 12 à 17h30 sur place. Dimanche prochain, le culte aura lieu à la salle Gaston Laverrière. Ce sera donc un culte de clôture de la semaine du club d'été, donc à 10h30 sur place à la salle. Il n'y aura donc pas de culte ici. Brian m'a partagé un sujet de reconnaissance pour l'Eau Vive Provence, pour ceux qui connaissent. Donc ils ont la possibilité de recevoir un terrain qui est à côté de leur propriété gratuitement, ou en tout cas de pouvoir l'utiliser. Oui. Alors, l'Eau Vive Provence est donc une œuvre dans le sud de la France, en Provence, comme son nom l'indique, œuvre qui a été initiée par Brian et Hélène.
Oui, c'est là où nous avons vécu quand même presque une quarantaine d'années et on a vu la grâce du Seigneur dans un tas de choses. Alors, je voulais juste vous raconter une. Nous ouvrions notre maison avec la piscine pour les voisins qui voulaient venir parce qu'il faisait chaud dans le midi, comme quelquefois vous le savez bien. Et après, à un moment donné, j'ai appris qu'un de nos voisins qui venait régulièrement s'appelait Israël. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ceux qui sont très jeunes comme moi savent de quoi il s'agit. Il y avait un docteur Israël qui était dans un des camps de concentration en Allemagne et qui a protégé les juifs et les autres. C'était un médecin juif et il a vraiment rendu un témoignage formidable. Et cet homme est venu à l'eau vivre très souvent et je lui ai parlé, je lui ai demandé s'il connaissait le sens du mot shalom. Il me disait non, alors je lui ai expliqué le sens du mot shalom, la paix. Et puis j'ai appris à ce moment-là qu'il était propriétaire de presque tout le terrain qui était autour de l'eau vive. Et ça nous faisait vraiment envie. On a vu acheter un petit peu à la fois, et puis stop. Et puis on a demandé à la famille de monsieur, de Dr Israël, parce qu'il est mort maintenant, s'il voulait nous vendre un grand terrain qui est entre l'eau vive et la rue qui passe, d'un hectare et demi. Et puis aucune possibilité de s'entendre. Les gens nous aiment bien. Non, on ne va pas vendre qui que ce soit. Si on le vend, c'est à vous, mais on ne va pas le vendre. Et finalement, ils sont venus nous dire, mais vous devez le savoir, on ne va pas vendre. Mais Dieu nous a parlé. Il nous a dit de vous dire ceci, quand on va vous prêter ce terrain jusqu'à la fin de nos vies, pour faire tout ce que vous voulez faire avec, on va faire un document signé devant le notaire pour que vous ayez cela. Alors, au lieu d'obtenir quelque chose comme 150 000 euros, quelque chose comme ça, c'était 0 centime d'euros donnés, prêtés pour aussi longtemps qu'on le veuille. C'était vraiment une réponse à la prière. Et je pense qu'il faut qu'on sache que Dieu répond à la prière. Je prends 30 secondes de plus. Peut-être certains ne savent pas. Il y en a qui pensent qu'il faut montrer sa carte d'archevêque ou de super-archevêque pour venir prier le dimanche matin avant le culte. Il y a plusieurs qui prient pour le culte avant le culte. Et ce matin, on a prié pour une personne qui est sur nos cœurs pour qu'elle soit bénie ce matin. Elle s'appelle Anne-Lise. Et puis, elle est là ce matin. C'était une réponse à la prière. Alors, j'aimerais vous dire, venez dimanche prochain, on peut faire la queue, on peut prier dans le couloir, pas de problème. Mais on est là pour prier parce que comme Philippe nous a dit si fidèlement ce matin, quand on prie, Dieu répond. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Vous êtes d'accord? Quelques-uns sont d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais prier pour vous. Merci.
Merci, Brian. Puisqu'on en était au sujet du programme un petit peu plus que de la semaine, mais on est au début de l'été, puis ensuite on va se croiser peut-être avec les vacances, juste vous rappeler que le 27 août, c'est déjà dans un mois et demi, il n'y aura pas de culte ici puisqu'on aura une journée à la Lècherolle, donc dans le Jura, dans un chalet d'alpage. On vous en donnera plus de précisions d'ici là, mais donc il n'y aura pas de culte ici le 27 août. Continuons de penser à ceux qui souffrent dans leur santé. On est content qu'Annelise soit parmi nous ce matin. Mais continuons de prier pour Annelise parce que Annelise souffre encore beaucoup. Et c'est important de la remettre par rapport à cela. C'est difficile la souffrance, surtout quand ça revient souvent et quand c'est profond. Alors un traitement sera commencé cette semaine. Je vous en avais parlé il y a 2-3 semaines, un traitement au laser qui va être commencé en fin de semaine, voilà, pour Annelise. Continuons de penser bien sûr à John, Guylaine aussi qui est parmi nous. Guylaine, on veut continuer de penser à toi, ainsi qu'à Jacques. Guylaine qui vit encore des opérations à son âge et on veut la remettre aussi à notre Dieu. Encore une dernière information toute pratique. C'est vrai que lorsqu'on utilise les bâtiments, les locaux du bâtiment, on a besoin d'allumer la lumière, on a besoin d'ouvrir les portes. Pour entrer, bien, pensons aussi à les refermer quand on sort et à éteindre la lumière avant de sortir. Si, oui.
Excuse, oui. Pour l'apéritif, il faut encore s'inscrire.
Voilà, juste, oui.
Dimanche prochain.
Voilà, oui.
Sinon, appelez Nancy cette semaine, n'hésitez pas.
Oui.
Voilà. Et je peux dire encore juste.
Oui.
J'aimerais vraiment remercier chacun pour ceux qui prient pour le club. Comme tu as dit tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas présents, mais je sais que vous priez. Et j'aimerais juste vous dire que dans mon cœur, je me disais, Seigneur, si on pouvait avoir 96 enfants, c'est juste top. Ça, c'est depuis des mois que je dis ça au Seigneur. Et vendredi matin, il nous en manquait encore 3. Il y a une famille qui s'est inscrite avec 3 enfants. Et on a pile 96 enfants. C'est juste extraordinaire, c'est des petites choses, mais c'est tellement important. Et puis juste hier, j'étais triste parce qu'on a reçu un mail de Laoni, je ne sais plus le nom de famille, mais pour ceux qui se rappellent, c'est une fille qui vient depuis de nombreuses années, qui se réjouissait vraiment de venir, et elle est coincée au Maroc, elle n'a pas pu avoir les papiers pour venir en France, et elle est vraiment très triste. Pierrick, je vois, il est triste parce que je lui avais dit qu'il l'aurait. Elle a 14 ans, c'était la dernière année où elle pouvait faire le club avec nous en tant qu'enfant. Alors si vous pouvez vraiment prier pour Laoni, et puis peut-être qu'aujourd'hui il y aura encore un enfant qui aurait envie de venir, c'est la place pour cet enfant, alors n'hésitez pas, il y a encore une place. Merci Seigneur.
Merci, donc oui, pensez à vous inscrire pour l'apéritif de dimanche prochain. C'est important de pouvoir passer un temps convivial ensemble après le culte, surtout après une semaine de club d'été. Donc il y a encore de la place, je vois ici qu'il y a encore une page toute vide et puis une demi-page encore vide, donc inscrivez-vous. C'est important aussi de partager, comme ça c'est plus facile, il y a moins à faire pour chacun. Sinon je vous invite à vous lever, je vous lis encore 3 versets dans le psaume 31. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Amen. Bon dimanche et passez une semaine bénie.